Bonjour et bienvenue à un autre épisode de la série de balado-diffusion des producteurs laitiers du Canada en chemin vers l'excellence à la ferme. Mon nom est Josée-Denis Robichaud et je suis épidémiologiste vétérinaire, passionnée par la santé globale des animaux, de l'environnement et des humains. Je fais partie de l'équipe qui collabore avec les producteurs laitiers du Canada pour présenter les histoires des producteurs laitiers canadiens, les mises à jour de l'industrie, ainsi que les dernières données scientifiques, les conseils et les perspectives sur des sujets liés à ProAction. Si ce n'est pas votre première écoute sur cette chaîne, vous savez que nos différentes séries abordent des sujets variés, incluant le bien-être animal, l'environnement, la biosécurité et encore plus. Notre objectif est de fournir aux agriculteurs et à leurs conseillers des informations utiles qui peuvent être appliquées à la ferme. Si vous aimez notre contenu, n'oubliez pas de vous abonner et d'en parler à votre entourage. Pour ce balado, j'ai eu la chance de m'entretenir avec deux chercheurs qui travaillent au sein d'Agriculture et Agroalimentaire Canada avec un focus sur les plantes pérennes. Les plantes quoi? Eh bien, les plantes pérennes. Ça, c'est les plantes qui peuvent survivre à l'hiver, comme la luzerne, qui est la vedette du balado d'aujourd'hui.
La luzerne fait vraiment partie des solutions climatiques via les solutions de l'agriculture pour le climat.
Celle que vous venez d'entendre, c'est Dr. Annick Bertrand, qui, avec sa collègue Dr. Solène Rocher, m'ont parlé de projets de recherche fascinants ayant pour but d'améliorer la luzerne pour qu'elle continue à pousser plus longtemps pendant l'automne et qu'elle survive mieux à l'hiver.
Je m'appelle Annick Bertrand et je suis chercheure en physiologie et biochimie des plantes pérennes. Tu sais, ça a commencé, j'ai toujours été fascinée par les moyens ingénieux que les plantes utilisent pour s'adapter au climat hostile. Alors, j'en ai fait mon métier. Mon programme de recherche, c'est augmenter la tolérance des plantes pérennes au stress de l'environnement. Les plantes pérennes, c'est des plantes qui doivent survivre à l'année longue. Alors, on travaille beaucoup sur la résistance au gel, donc la survie à l'hiver. On travaille aussi sur la salinité. Puis, on développe des méthodes de sélection pour accélérer l'obtention des cultivars tolérants. Puis aussi, mon groupe de recherche a une expertise en biochimie, ça fait qu'on peut identifier les mécanismes qui aident les plantes à s'adapter et ainsi connaître un peu les mécanismes sous-jacents, pourquoi une plante est meilleure que l'autre.
Donc moi, je m'appelle Solène Rocher et je suis chercheure en génétique moléculaire des plantes pérennes. Donc mon travail, c'est plutôt de développer des outils pour accélérer l'amélioration variétale. Puis il y a toute une partie aussi qui est d'aller essayer d'identifier, de comprendre les mécanismes génétiques qui sont à la base du fonctionnement des plantes. Puis moi, dans la vie en général, dans ma vie scientifique, j'ai un intérêt très particulier pour tout ce qui est adaptation au stress et aux contraintes de l'environnement, ce que je trouve vraiment extraordinaire, le fait que des plantes qui ne peuvent pas bouger soient obligées à chaque fois de faire avec leur environnement et doivent composer avec et s'adapter. Je trouve que c'est quelque chose d'assez merveilleux. Et toute la part de la composante de la diversité génétique des espèces dans leur adaptation au stress, c'est vraiment quelque chose qui me porte et me passionne du point de vue scientifique.
On entend vraiment souvent parler de maïs et de soya, mais la luzerne est aussi présente dans les champs du Québec et du Canada.
Une des caractéristiques principales de la luzerne, c'est effectivement que c'est une plante pérenne et ça lui donne tout un tas de caractéristiques qui sont très, très intéressantes à la fois pour la structure et la santé des sols. Et le fait que ça soit une plante pérenne, ça veut dire qu'elle survit à l'hiver et qu'elle va être capable de repousser pendant 4 à 5 ans successivement si on a une bonne régie de culture. Et ça a beaucoup d'intérêt à la fois sur le plan environnemental et économique au niveau de la régie des cultures. C'est aussi une plante qui est une légumineuse, qu'elle a la capacité de fixer l'azote qui se trouve dans l'air, l'azote qui est un gaz à effet de serre très, très important et qui est aussi un fertilisant très important pour l'agriculture. Et donc, le fait que ces légumineuses-là, dont la luzerne fait partie, soient capables de fixer l'azote, ça a beaucoup d'intérêt autant sur le plan économique, donc des économies en intrants, mais aussi sur le plan environnemental, puisque c'est des plants qui peuvent servir d'engrais verts et donc permettre d'enrichir les sols. Et avec cette capacité qu'elles ont à fixer l'azote, il y a quelque chose qui vient en accompagnement de ça, c'est que c'est des plantes qui vont être très, très riches en protéines. On parle de 15 à 25% de protéines dans la plante en fonction de son stade de développement. Et donc ça, c'est quelque chose qui a beaucoup d'intérêt au niveau nutritif, notamment pour l'alimentation animale. Puis enfin, elle a beaucoup d'intérêt. La luzerne, c'est vraiment une plante qui est extraordinaire, mais elle a une autre caractéristique que moi, je trouve vraiment très intéressante, qui est liée à son système racinaire. Parce qu'elle a un système racinaire donc, qui va être pérenne, qui va rester longtemps dans le sol, donc protéger et structurer le sol. Mais elle a aussi une racine pivotante qui va très, très profondément dans le sol et donc qui permet d'aller chercher les nutriments en profondeur et de stabiliser le sol. Donc ça, c'est parmi toutes les caractéristiques de la luzerne, c'est celle que je donnerais comme étant les plus intéressantes peut-être pour les producteurs de fourrage.
Et de quoi alors son cycle de vie?
À partir du moment où elle est semée, là, la luzerne, la partie intéressante pour les producteurs laitiers, c'est la partie aérienne, c'est la partie qui va servir à la nutrition animale. Et comme vient de le dire Solène, cette partie-là est riche en protéines. C'est la plante est délicieuse. Mais quand on vient parler de survie à l'hiver, c'est vraiment le collet de la luzerne qui est l'endroit le plus important. Le collet, c'est à la base de la tige, c'est la partie d'où proviennent les méristèmes, c'est-à-dire d'où viennent les nouvelles tiges qui vont débuter après chaque coupe ou après l'hiver. Alors, le collet est vraiment l'endroit qui est le plus important lorsqu'on parle de survie à l'hiver. Et le développement du collet, ça débute avec 2 semaines après la levée de la luzerne. Puis ça se continue pendant toute sa vie. Puis au cours de la saison végétative et surtout à l'automne, la luzerne elle a besoin des temps de repos. C'est-à-dire que l'énergie doit s'accumuler dans le collet et pour ensuite donner le regain. Alors, on fait des coupes de luzerne, mais on ne les fait pas à toutes les 2 semaines. On laisse le temps à l'énergie de s'emmagasiner dans les collets. Et à l'automne, c'est d'autant plus important parce que là, la luzerne se prépare pour la longue saison d'hiver. Alors, elle a besoin d'avoir beaucoup d'énergie, non seulement pour passer l'hiver, même si le métabolisme pendant l'hiver est très lent, on a quand même besoin d'un petit métabolisme, et elle a besoin d'énergie pour produire les tiges au printemps, le regain printanier. La dormance automnale, c'est vraiment un arrêt de croissance chez les plantes pérennes, comme la luzerne. Cet arrêt de croissance-là à l'automne, ça permet justement aux plantes d'accumuler les réserves dans les couronnes et dans les racines avant la venue de l'hiver. T'sais, c'est un peu sa méthode d'hibernation qui va lui permettre de revivre au printemps. Cet arrêt de croissance-là, c'est déclenché par des facteurs climatiques. Entre autres, le plus important, c'est le raccourcissement de la longueur du jour. Donc, ce qu'on appelle aussi la photopériode. Alors ça, dès que la photopériode baisse sous un certain nombre d'heures, dépendant des cultivars, ils vont répondre plus ou moins rapidement à ce déclencheur. Puis aussi, le froid aussi va faire en sorte, va doublement ralentir. Mais souvenons-nous de longueur du jour. Puis lorsque la luzerne entre en dormance, tous les sucres qui sont issus de la photosynthèse vont être transloqués vers notre fameux collet, où là, toute l'énergie va se concentrer. Puis, en plus des réserves, il y a plusieurs composés cryoprotecteurs qui s'accumulent dans les cellules du collet pour empêcher la formation de glace. Les cristaux de glace qui se forment dans une cellule, ça brise la cellule, ça brise les membranes. Alors, il y a des sucres cryoprotecteurs qui s'accumulent et qui font en sorte qu'ils abaissent la température de congélation à l'intérieur de la cellule. Et il y a aussi d'autres composés qui vont stabiliser les membranes des cellules, encore une fois, pour les empêcher de se briser si l'eau s'accumule à l'intérieur ou à l'extérieur de la cellule. Puis, pour moi, l'analyse biochimique, parce que je fais l'analyse biochimique de ces composés-là, ça nous permet de déterminer exactement quels composés sont impliqués dans la protection. Et aussi, on peut directement lier la concentration de certains de ces composés-là au niveau de tolérance de la plante au gel. Alors, juste en faisant des analyses de certains composés, je vais savoir que tel cultivar est prometteur ou moins pour avoir une bonne résistance à l'hiver.
OK, mais c'est quoi l'impact de la dormance?
Les premiers signaux à l'automne, ça provoque un arrêt de croissance. Ça permet à la plante de ce qu'on appelle de s'acclimater au froid, c'est-à-dire d'accumuler des composés biochimiques qui lui permettent de survivre. Fait que si la plante entre rapidement en dormance, elle a plus de temps pour s'acclimater au froid. C'est pour cette raison-là que les deux caractères sont assez liés. C'est-à-dire que les cultivars dormants sont plus tolérants au gel et vice-versa. Mais ces cultivars dormants-là ont un rendement annuel plus faible. Ils cessent de croître rapidement à l'automne, repartent plus lentement au printemps. Puis, ça, c'est une problématique parce que leur production de lait va dépendre du rendement de la luzerne. Alors, ils veulent avoir des cultivars qui sont à la fois, qui ont un bon rendement, un bon regain, mais qui sont tolérants au gel. Alors, c'est là où nous, on entre en ligne de compte. On veut leur donner ces cultivars-là.
Comme ça, on a le beurre et l'argent du beurre.
Ben voilà, c'est ça qu'on fait, nous autres, dans la vie.
Je vous l'avais dit que ces chercheurs travaillent fort pour maximiser les rendements agricoles. Pour arriver à cet objectif, Annick et Solène ont développé des approches complémentaires.
Ce qu'on a, la chose qu'on a développée, qui est un peu au cœur de notre de l'expertise de notre groupe, c'est développer une nouvelle méthode de sélection pour accélérer la sélection de la luzerne, parce que des sélections génétiques, c'est super long. Bien, on a développé une méthode qui se fait complètement en conditions contrôlées, qui simule à l'intérieur les conditions automnales et les conditions hivernales. Parce que la méthode classique, c'est d'avoir une pépinière de milliers de plants au champ et après un hiver type, on va choisir les meilleurs individus qui ont survécu. Mais parfois, les hivers vont être trop sévères, tous les plants vont mourir, ou des hivers trop doux, tout le monde résiste. Alors, on ne peut pas choisir nos individus. Ça fait que c'est long, il faut faire sur plusieurs sites pour être sûr d'avoir des résultats. Alors, nous, on a les infrastructures pour simuler les conditions automnales et hivernales. Alors, notre méthode, ça consiste à faire croître des milliers de plants à l'intérieur, toutes des plants individuels d'un même cultivar, et on les fait croître sous des conditions optimales de croissance pendant quelques semaines, mettons 4 à 5 semaines, et on les coupe, on fait une coupe, simulation de coupe au champ, et lors du regain, on les fait croître sous une photopériode de 12 heures et une température assez basse, 15 degrés centigrades pendant la nuit, 18 degrés pendant le jour, pour vraiment simuler les conditions automnales. Ces conditions-là vont nous permettre de discriminer entre les individus qui sont les moins dormants, que malgré la photopériode courte, puis il fait quand même froid, la plante continue la plante débute sa croissance tôt. Alors, je vais choisir mes individus comme ça, qui ont une croissance plus rapide. Et après 3 cycles, si mettons je pars avec 3000 plants, après 3 cycles comme ça de coupe, regain, etc., je vais finir avec les 50 plants les plus performants que je vais intercroiser entre eux, puis obtenir un cycle de sélection qu'on appelle D1. Et je peux faire comme ça plusieurs cycles, D2, D3, qui vont faire en sorte à chaque cycle, si on l'a mesuré, la dormance est moins grande, les plants sont plus hauts. C'est que ça, je peux faire ça à partir de plants qui sont très tolérants au gel au départ, très dormants, puis là, je vais baisser leur dormance. Et aussi, je peux faire l'approche inverse, c'est-à-dire prendre des luzernes qui ont un bon rendement, mais qui sont pas très tolérants au gel, et je vais leur faire subir, au lieu d'une coupe, je vais leur faire subir un stress de gel après quelques semaines de croissance, puis là, un stress de gel que je vais contrôler, qui ne tuera pas toutes. Puis là, je vais les faire recroître sous la photopériode de 12 heures. Alors là, je vais les choisir. Les individus que je vais choisir vont être à la fois moins dormants et ils vont avoir résisté au stress de gel. Alors, ces deux approches-là se font en conditions contrôlées et beaucoup plus rapidement qu'à l'extérieur au champ.
Avec ces méthodes de sélection en conditions contrôlées, on peut vraiment aller beaucoup plus vite et beaucoup plus loin dans l'amélioration. Mais on veut toujours aller plus loin, puis on veut toujours aller plus vite. C'est là où j'interviens, puis qu'on essaye de développer des approches de sélection qui sont assistées par marqueurs moléculaires pour encore accélérer ce processus-là. Parce que justement, ces outils-là nous permettent aussi de voir les liens entre deux caractères comme le froid ou la dormance. Et si je vous résume rapidement l'approche, l'idée, c'est qu'on utilise des populations de plantes, fait qu'on a ces populations contrastées. Il y en a qui sont plus dormantes, il y en a qui sont moins dormantes. et qu'on prend toutes ces plantes-là et on extrait leur ADN qu'on découpe en des millions et des millions de petits morceaux. Puis, on utilise ces morceaux d'ADN pour créer ce qu'on appelle des étiquettes moléculaires. Et on regarde, ben, est-ce que j'ai des morceaux d'ADN qui sont plus souvent dans mes individus qui sont moins dormants, puis est-ce que j'ai des morceaux d'ADN qui sont plus souvent retrouvés dans ceux qui sont plus tolérants au froid. Donc là, comme ça, on développe ce qu'on appelle des marqueurs moléculaires qui nous permettent, au final, d'aller chercher les gènes dans l'ADN, quels gènes sont impliqués dans la dormance des plantes, dans leur tolérance au froid. Et donc ça, c'est des méthodes qui nous permettent d'aller vraiment, vraiment beaucoup plus vite une fois qu'elles sont développées pour sélectionner et d'aller aussi beaucoup plus en finesse. On peut choisir des petits morceaux de génome qu'on va décider d'enrichir.
Si je comprends bien, le développement des cultivars se passe à l'intérieur?
On fait la sélection en conditions contrôlées, mais après ça, il faut valider que ça marche. Et on a validé que ça marchait au champ, qu'on a obtenu des plants plus hauts, qui ont un meilleur rendement puis qui n'ont pas une moins bonne tolérance au gel. Alors ça, on était vraiment contents. Puis avec le cultivar qui était déjà peu dormant, ben on a réussi à améliorer sa tolérance au gel sans augmenter la dormance. Si à Saskatoon, après deux hivers très rigoureux, on avait 30 % de survie de notre plan, de nos populations sélectionnées, comparativement à 3 % chez le cultivar initial.
Et est-ce que vous avez des résultats similaires avec les marqueurs génétiques?
Mais si on pousse les résultats jusqu'au niveau moléculaire, en fait, dans ces populations-là qui ont un rendement finalement qui est amélioré sur l'année, puisqu'elles sont moins dormantes et plus productives, on a été chercher, avec l'approche de génotypage à haut débit que je vous expliquais un petit peu avant, on a été identifier 170 millions de marqueurs moléculaires, donc de petites étiquettes qui nous permettent, dans toutes ces plantes et dans toutes ces populations, d'aller chercher quelles régions du génome en fait sont impliquées dans la dormance. Puis là, on est sur des résultats préliminaires qui ne sont pas validés suffisamment de fois pour être avancés avec grande certitude, mais on parle de 8 à 10 régions du génome de luzerne qui seraient impliquées dans la dormance, qui serait répartie sur les 8 chromosomes de la luzerne, donc un petit peu partout, mais on parle vraiment d'un nombre très très limité de gènes qui seraient impliqués et qu'on arrive à sélectionner. C'est un des grands résultats qu'on a eu aussi, qui n'est pas directement transférable au producteur, mais qui à long terme va avoir beaucoup d'impact sur la rapidité avec laquelle on peut travailler sur ces traits-là.
Quelles sont les implications, disons, à long terme pour ces résultats?
Tout l'intérêt aussi d'aller travailler au niveau moléculaire, c'est que dans cette étude en particulier, par exemple, on a travaillé sur deux cultivars différents qu'on a sélectionnés pour le même caractère avec la même méthode. Et quand on va regarder au niveau génétique, qu'est-ce qui est responsable potentiellement dans ces cultivars de leur adaptation, il y a des régions qui sont communes. On est dans quelques endroits qui sont similaires, mais on a aussi des endroits du génome qui sont spécifiques. Fait que là, on va pouvoir aller chercher des sources différentes d'adaptation dans la biodiversité qui existe dans les cultures et justement avoir des cultivars qui sont beaucoup plus adaptés à beaucoup plus de conditions différentes.
En gros, Annick et Solène développent des outils qui ont et auront des impacts positifs pour les agriculteurs qui utilisent les plantes pérennes comme la luzerne.
Bien, juste pour faire un petit résumé de ça, effectivement, nos retombées côté producteur. Si on regarde nos recherches, ça va vraiment, c'est notre but, d'offrir aux producteurs des cultivars bien adaptés qui sont moins dormants, mais qui vont avoir une bonne capacité de profiter de l'allongement de la saison de croissance tout en ayant une bonne persistance. T'sais. Notre méthode tient compte de tous ces facteurs-là. Alors, offrir les cultivars bien adaptés qui ont un bon rendement puis qui persistent, c'est notre grand but, puis on est proche de l'atteindre.
Merci d'avoir écouté ce balado des producteurs laitiers du Canada. J'espère que, comme moi, vous en avez appris sur le développement des cultivars de luzerne du futur. Pour plus ample information, veuillez consulter le site des producteurs laitiers du Canada. Ce balado a été animé et édité par moi, José-Denis Robichaud, et produit par Steve Roche. Merci à nos invités, Annick Bertrand et Solène Rocher, et à vous pour votre écoute. Ce projet fait partie de la grappe de recherche laitière 3, un programme de financement national soutenu par Agriculture et Agroalimentaire Canada, les producteurs laitiers du Canada, Lactanet et Novalais.